Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraougou avec vous pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amdine Sy est avec nous depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Nangadef Amdine.
Magnifique Yacouba, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, Thierry Kambundi de Top Congo FM, Élisée Mpatine depuis Boyoukon, Amine Birouko à Casablanca. Et j'ai aussi nommé Roger Stéphane à Abidjan, ils vont tous nous rejoindre. Mais en attendant, eh bien, sachez que, merci à tous déjà de votre présence ce soir et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute des sujets brûlants ce soir. La fameuse finale retour à rejoint Ligue des Champions, le président de la CAF interrogé, puis relâché par les autorités françaises, le mondial des moins de 20 ans, désormais sans les représentants africains out. Le mondial féminin France 2019, bien sûr, qui a mal débuté pour les Africains. Et donc, vous le savez, la Confédération africaine de football a décidé mercredi que la finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, qui a sacré les Tunisiens dans la confusion totale, sera rejouée hors de la Tunisie après la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir du 21 juin, donc dans 10 jours, dans 11 jours si vous voulez pour être plus précis, au 19 juin. Et pour rappel, lors de ce match qui a eu lieu à Rades, le WAC a quitté la pelouse après un litige qui a duré un moment et qui concernait l'assistance vidéo à l'arbitrage qui ne fonctionnait pas. Celle-ci aurait pu, peut-être, j'ai dit bien peut-être, permettre de leur valider un but refusé par l'arbitre gambien Bakary Gassama pour un hors-jeu litigieux. La CAF a justifié sa décision par les conditions de jeu et de sécurité qu'elle estime non réunies lors de ce match retour qui s'est tenu le 31 mai, je rappelle. Amine Birouk est en direct depuis Casablanca. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc, vous avez tous suivi cette affaire, vous particulièrement, bien sûr, en tant que Marocain. Alors Amine, c'est une décision inédite, mais aussi contestée.
Première dans l'histoire du football mondial, il faut pas se leurrer. Une décision très difficile à prendre. La CAF était devant un dilemme. Soit elle validait le résultat du match et créait un précédent juridique et sportif, dans la mesure où dans son cahier de charge, la VAR existait pour la finale aller-retour et donc le principe d'égalité des chances n'était pas maintenu. Soit elle le faisait rejouer et quoi qu'il arrive, elle serait dans la polémique. Mais s'il le fait rejouer, quel serait le prétexte invoqué? Parce que le premier prétexte serait l'absence de la VAR. Donc ce serait se condamner elle-même. Donc ce n'était pas évident de le faire. Il a fallu trouver un subterfuge, je ne dirais pas juridique, mais en tout cas politique, puisque au moment de l'arrêt de la rencontre, le président de la CAF a été cerné, il a été harcelé. Il y a eu une descente de policiers tunisiens cagoulés avec armes au poing. Et visiblement, à l'heure où le verdict devait être rendu, soit on continue à jouer, soit on trouvait une autre solution, il n'était plus en mesure d'avoir son libre arbitre. Et visiblement, le rapport du commissaire du match, le président de la fédération mauritanienne, Ahmed Ouldiahia, plus celui de l'arbitre de la rencontre, plus celui des officiers de sécurité, ont été tous concordants. Et dans ce sens-là, les conditions de jeu n'étaient pas garanties. D'où cette décision qui fait que aujourd'hui la rencontre aura lieu théoriquement après la CAN, hors du territoire tunisien. Les Tunisiens ont promis d'ester en justice et d'aller vers le TAS. Est-ce qu'ils tiendront cet engagement après notification ou bien c'est juste une façon de faire pression sur la CAF pour obtenir le maximum d'avantages, quitte à pouvoir jouer pas très loin du territoire tunisien, voire même en Tunisie. En tout cas, voilà des interrogations qui sont posées. Mais c'est vrai que c'est une première juridique. Quelques principes ont été invoqués, le principe d'égalité des chances, le principe ou l'absence du quorum au sein du comité exécutif de la CAF au moment de la prise de décision. Autant de choses qui ont servi la partie marocaine, qui lui ont permis d'obtenir gain de cause. En tout cas, au moins pour faire jouer la rencontre dans des conditions plus normales, car depuis de très nombreuses semaines, depuis le match aller, tout ce qui est extrasportif a prédominé sur ce qui devait exister sur le rectangle vert, et aujourd'hui, les relations entre fédérations tunisiennes et marocaines sont quasiment rompues. Les relations entre les médias des deux pays ressemblent à un état de guerre et aujourd'hui, les sages des deux pays devraient appeler beaucoup plus à l'apaisement, quitte à ce que le problème soit résolu soit sur le rectangle vert, soit devant une juridiction comme le tribunal arbitral du sport.
Merci bien, Amine. Les principes de l'IFAB, l'instance garante des règles du jeu dans le foot, stipulent qu'un match ne peut pas être invalidé par une défaillance de la VAR. Le propre règlement de la CAF prévoit aussi que si une équipe se retire du second match de la finale, l'autre est sacré. Alors, Jules, le Maroc a revendiqué la reprise du match en se basant sur l'absence de la VAR qui aurait peut-être permis de valider leur but égalisateur refusé. La CAF, elle, fonde sa décision sur les conditions de jeu et de sécurité qu'elle estime non réunies. Est-ce un faux fuyant pour l'instance africaine?
Oui, mais il faut dire que depuis que M. Ahmad Ahmad nous a habitués au volte-face à 90 degrés, nous sommes vraiment assez déroutés. Et par rapport à ce match, on sent tout de suite que la première décision qui a été prise a sûrement été contesté à un autre niveau et que finalement il fallait chercher un motif quelconque pour revenir dessus. Je pense plutôt que étant donné les conditions dans lesquelles M. Ahmad Ahmad a été élu à la tête de la Confédération africaine de football avec des appuis certains de pays qu'on connaît et donc il est un peu sous pression. Je crois qu'il n'est pas respecté suffisamment. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il dit quelque chose et qu'il dit le contraire par la suite. Et ici, en particulier, on sent que M. Ahmad Ahmad s'est repris et tout simplement parce qu'il a eu de fortes pressions. Bon, alors, à partir de ce moment, le président de la Confédération africaine de football est-il encore respecté? C'est ça la question de base, je pense.
Et donc, il y a la personnalité d'Ahmad, il y a aussi le fait que la décision a été rendue, en tout cas officiellement, par le comité exécutif de la CAF. Le règlement de cette CAF-là prévoit que tous les matchs de la Ligue des Champions doivent se jouer avant le mois de juillet de l'année suivant le début de la compétition, alors que la finale de la CAN est prévue déjà pour le 19 juillet. Amdine, la CAF a décidé que le match à reprendre se joue après la CAN, une fois de plus, c'est contre son propre règlement dans la mesure où cette finale-là, en principe, devait se jouer avant la fin du mois de juillet.
Oui, tout à fait, Yacouba. En ce moment, la CAF est en train de ternir l'image de marque du football africain. Pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, c'est vrai que c'est inédit, mais je suis d'accord avec la CAF pour que le match soit rejoué, puisque une des deux parties a été lésée. Il s'agit du WAC de Casablanca, puisque la première manche qui s'est jouée au Maroc, il y avait la VAR. Et avec la VAR, ça change tout. Donc, au match retour, il devait y avoir la VAR, il n'y a pas eu la VAR, il y a un but et ce qui s'en est suivi, on le sait. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec la CAF pour que ce match soit, premièrement, joué sur terrain neutre, parce qu'il faut également respecter le principe de l'égalité des chances. Si on respecte le principe de l'égalité des chances, le WAC a reçu les Tunisiens chez eux, les Tunisiens aussi doivent recevoir les Marocains chez eux également. Maintenant, concernant ce match qui sera joué après la finale de la CAN, c'est anormal, c'est injuste, puisque les deux équipes, ce ne sont pas les mêmes équipes qui vont se présenter. Puisque ce match sera joué presque un mois, 15 jours après la fin peut-être de la saison ou la fin des matchs, puisque tous les joueurs vont rejoindre la sélection pour jouer ces matchs. Donc, ce n'est plus la même finale qu'on va voir. Une finale, on devait quand même jouer cette finale très rapidement, programmer ça très rapidement pour jouer ça avant la CAN, puisque en ce moment, les responsables de la CAN sont omnibulés par cette CAN qui commence à nous poser des problèmes. Il y a eu le changement de pays, on a reporté de quelques semaines pour le démarrage. Il y a encore, mais quand même, il faut qu'on soit organisé. Il faut que la CAF sache que c'est la vitrine quand même du football africain. La CAF ne doit pas faire n'importe quoi. Si on regarde ce qui se passe, c'est le football africain qui est perdant dans tout ça, Yacouba.
Merci bien, Amdine. On a bien compris votre ras-le-bol. Alors, Thierry, vous êtes quelque part ici à Washington. Bonsoir déjà.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Alors, Une autre question se pose, Amdine l'a effleuré, avec quel effectif joueront les deux équipes qui enregistreront sans doute un du mouvement lors du mercato d'été?
Justement, je suis tout à fait d'accord avec Amdine et avec mes prédécesseurs. Je suis en train de me poser la même question concernant la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer cette finale. Je ne sais pas si les membres du comité de la CAF qui ont pris cette décision ont mesuré l'ampleur des dégâts ou ont tenu compte de tous ces autres paramètres qui ont été évoqués, notamment le contexte dans lequel le match devrait se jouer maintenant après la CAF, avec quel effectif, quand on sait que les joueurs de certaines des équipes sont enregistrés selon les règlements de la CAF avant la compétition, dans des règles précises. Bref, c'est invraisemblable cette décision. C'est une honte pour notre football que d'en arriver à des pareilles décisions. Déjà, on avait évoqué le contexte dans lequel ce match avait été organisé. La semaine dernière, j'avais déploré, malgré tout, malgré toutes les injustices qu'ils peuvent estimer avoir à subir, le fait que les joueurs marocains puissent sortir du terrain dans ce contexte-là. Le comité a décidé, il a été décidé d'octroyer le trophée à l'Espérance sportive de Tunis. Quelques jours après, vous décidez de faire rejouer les matchs. Dans quel contexte, sur un terrain neutre, pourquoi priver les espérantistes, pourquoi priver, au nom de l'égalité des chances qu'évoquait justement Amdi tout à l'heure, les supporters de l'Espérance sportive de Tunis, le droit, après avoir fait le déplacement du Maroc, d'évoluer chez eux au match retour. Bref, je ne sais pas si tous ces paramètres étaient pris en compte, mais vraiment, vraiment, la Confédération africaine de football devrait apporter des réponses précises aux passionnés du football congolais, aux observateurs du football africain, je voulais dire, par rapport à tout cela, parce que rien ne dit en plus qu'après la CAN, que et l'Espérance de Tunis et le Wydad Athletic Club de Casablanca auront le même effectif. Et ça gâche tout les règles de cette Champions League.
Vous l'avez aussi suivi, le président de la CAF est sorti un libre de sa garde à vue en France. Ahmad avait été interpellé à Paris jeudi dernier par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Et dans l'affaire révélée jeudi, Puma, après une rupture présumée du contrat de façon unilatérale, et donc je parle de l'équipementier Puma, a demandé une compensation de $100,000, mais la CAF n'a pas payé la somme, a dit Amr Fani, l'ex-secrétaire général de la CAF à l'AFP. Selon des documents consultés par justement l'agence France Presse, la CAF avait dans un premier temps passé contrat en décembre 2017 avec Puma pour la fourniture d'équipements destinés notamment à habiller les 580 volontaires du championnat d'Afrique des Nations en temps des Chans en 2018. Peu de temps après, la CAF aurait rompu ce contrat au profit d'une autre société basée en France et fournissant elle du matériel Adidas, et ce pour un montant supérieur au contrat initial. Alors Amine, vous avez suivi tout cela. On va dire qu'en 48 heures, l'image de la CAF et du football africain a pris un sérieux coup.
Ça pendait au nez parce que c'est une affaire qui date de très nombreux mois. Il faut rappeler aussi que le secrétaire général ou l'ex-secrétaire général avait disparu de la circulation juste avant la réunion du comité exécutif à Accra il y a quelques mois. On invoquait des raisons de santé. D'autres raisons extra-santé auraient pu exister également. Mais quoi qu'il en soit, cette disparition est devenue, on pourrait parler de disparition suspecte. Il y a eu une plainte d'Amar Fahmy, il y a eu des documents confidentiels qui auraient quitté les bureaux de la CAF, d'où le changement de secrétaire général, d'où également la suspension du directeur administratif et financier. Voilà beaucoup d'affaires qui viennent ternir l'image de la CAF. Et puis, on rappellera donc cette interpellation, en tout cas, ces 12 heures passées par Ahmed dans les locaux de la police parisienne, 24 heures seulement après ces décisions, pour le moins très contestées. Aujourd'hui, l'affaire est claire. Il y existe des soupçons selon lesquels il y a une transaction qui ne s'est pas faite dans les normes. On aurait même parlé de commission rogatoire de la part de la police parisienne pour venir perquisitionner le siège de la CAF. On va invoquer également le principe de présomption d'innocence. En tout cas, plusieurs paramètres existent dans cette affaire. Les textes sont clairs. Si jamais le président de la CAF est empêché d'exercer ses fonctions pour une raison ou une autre, c'est le premier vice-président qui serait appelé à exercer ses fonctions pendant 4 mois avant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire élective. Celle-ci pourrait être même avancée, justement, si jamais Ahmed Ahmed décidait de jeter l'éponge dans les prochaines semaines, peut-être même pendant la CAN. Mais ce qui est certain, c'est que le nom du possible successeur d'Ahmed Ahmed n'est pas très évident à désigner, puisque même son premier secrétaire général, son premier vice-président, Pinnick, le Nigérian, a également des ennuis judiciaires dans son pays. Donc, visiblement, c'est une institution qui va mal, c'est une institution qui a besoin d'une gouvernance beaucoup plus cohérente que celle que nous avons eu droit à pendant les 24 derniers mois, avec beaucoup de décisions chaotiques, beaucoup de rétropédalage et beaucoup de changements de cap. Aujourd'hui, l'institution est ternie, il va falloir que cette CAN serve à la réhabiliter en Égypte avec 24 équipes, qu'elle se déroule dans les conditions les plus régulières possibles, avec ou sans VAR, que ce soit un succès en matière d'organisationnel, ce qui n'est pas gagné d'avance avec les conditions de sécurité en Égypte, et surtout qu'il y ait le maximum d'apaisement autour de la CAF, une institution qui est aujourd'hui très fragilisée et qu'il va falloir réformer sous la houlette ou sous le regard inquisiteur du nouveau président de la FIFA, ou en tout cas du président nouvellement réélu de la FIFA, Gianni Infantino.
Merci bien, Amine. Alors, Jules, vous l'avez suivi aussi, sans doute, hein. D'abord, c'était le passage à 24 équipes, la CAN attribuée au Cameroun, puis retirée parce que le Cameroun n'était pas prêt, réattribuée dans certaines conditions critiques à l'Égypte. Il y a cette question de la finale retour de la Ligue des Champions qui vient se greffer. Alors, est-ce que on dirait que la CAF navigue à vue, ou véritablement vous sentez pas de stratégie au niveau du comité exécutif de la CAF?
Oui, je pense que tout dépend de la façon dont la nouvelle équipe s'est installée également. Il faut dire que tout le monde a été surpris par l'élection d'Ahmad Ahmad, qui apparaît presque comme une contre-élection plutôt qu'une élection. Donc, il s'agissait de mettre fin au long mandat de Issa Hayatou, et pour cela, certaines dispositions ont été prises et par la plupart des gens qui voulaient un changement. Mais réellement, la personnalité du nouveau président de la CAF ne correspondait peut-être pas à l'importance de cette organisation. Il faut dire que le football est quand même une des facettes de l'Afrique les plus positives dans le monde, où l'Afrique tutoie les plus grands depuis quelque temps. Et donc, il est important que celui qui représente ce football-là soit respecté dans le monde et ait une certaine envergure. Moi, je crois que le problème de fond se trouve là. Et donc, la perméabilité qu'on voit autour du personnage actuel et nous fait penser que ce personnage ne fait vraiment pas le poids. Et donc, il serait peut-être temps de se mettre à réfléchir et considérer que son passage est plutôt un intérim. Moi, franchement, je pense que c'est comme ça que je vois cette affaire, et peut-être qu'il faut intéresser un peu plus la partie anglophone, qui n'a jamais eu à gérer cette confédération africaine de football, et peut-être que en changeant ainsi totalement d'orientation, on aura peut-être affaire à un président de la CAF qui est beaucoup moins perméable. Donc, je pense, à mon avis, que ce n'est qu'un intérim qu'on est en train d'assurer.
Alors, Roger Stéphane est avec nous depuis Abidjan. Roger, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue à Abidjan.
Est-ce qu'il aussi ne fallait pas s'attendre, hein, à ces moments de turbulence et de turpitude au niveau de la CAF et du comité exécutif? Et donc, après quand même l'éviction, on va dire comme ça, d'Issa Hayatou, qui a régné pendant longtemps, est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre, hein, à ce que certaines décisions soient contestées? On a vu bien sûr les difficultés qu'Ahmad a eues avec Amr Fahmy, qui a été viré en avril dernier, l'ancien secrétaire général, je vais dire. Et ensuite, il y a eu ces fuites de documents confidentiels au niveau de la CAF. Est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre quand même à ce que ce régime de la CAF là subisse toutes ces secousses-là?
Bah écoutez, on peut peut-être comprendre un temps soit peu toutes les difficultés actuelles d'Ahmad Ahmad, le nouveau président de la CAF, parce que c'est une institution qui ne maîtrise certainement pas énormément, comme l'a maîtrisé Issa Yatou, qui était un grand patron, un grand homme dans la gestion du football africain. Et donc, forcément, quand on arrive à la tête d'une institution pareille, avec déjà des acquis, avec des clans, avec des groupes, on peut comprendre que Ahmad Ahmad ait des difficultés. Parce que quand vous regardez tout cet épisode, on a le sentiment que c'est un règlement des comptes parce que Am Fahmy, égyptien limogé, c'est lui qui dénonce Ahmad Ahmad. Donc c'est tous les règlements de comptes. Derrière, vous avez Ahmad qui est interpellé, qui est entendu, qui est libéré. L'enquête se poursuit sur une affaire de contrat qui existait déjà, mais d'autres n'avaient pas écho. Il a fallu que l'un des les acteurs de tout ce feuilleton-là soit limogé pour que l'affaire apparaisse au grand public. Donc ça m'a tous les règlements de comptes. Une affaire de copinage là-bas entre égyptiens et marocains avec au centre Ahmad Ahmad. Regardez par exemple, Fahmy, il est égyptien, il est limogé, remplacé par Mouad Hadji, qui lui est marocain, lui-même proposé par un autre marocain, qui est le tout-puissant Fouazi Lepa de la Fédération Euro-Marocaine de football, et qui est vice-président de la CAF. Vous aurez bien compris, c'est un règlement de compte dans lequel il y a un méli-mélo où il y a les Égyptiens, où il y a les Marocains, et puis au milieu, il y a le pauvre Ahmad Ahmad.
On vous aurait bien compris, Roger Stéphane, on est obligé d'avancer, on n'a que 4 minutes restantes pour parler de foot féminin et de mondial des moins de 20 ans. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique, l'émission revient tout de suite. Et donc, le football féminin France 2019 et deux représentants africains ont connu un mauvais départ. Il s'agit des Nigérianes championnes d'Afrique en titre qui ont été battues par la Norvège 3-0 et l'Afrique du Sud qui est tombée 3-1 devant l'Espagne pour son premier match en Coupe du Monde. Le Cameroun et le Canada s'affrontent pour le moment 0-0 donc entre Camerounaises et Canadiennes. On parle aussi du mondial des moins de 20 ans, mais cette fois-ci et donc chez les hommes. Le Mali et le Sénégal ont été stoppés au quart de finale après la défaite des Aiglons 4-2 contre l'Italie. Les Lionceaux de la Teranga demi-finaliste il y a 4 ans ont perdu au tir au but 3-2 face à la Corée du Sud. Amdine, les Lionceaux sont de retour à Dakar avant la fin de la compétition.
Oui, tout à fait, ils sont de retour. Ils ont été éliminés par la Corée après la série de tirs au but, après quand même à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Les deux équipes étaient à égalité. Partout, il faut reconnaître, Yacouba, qu'on a assisté à un match riche en rebondissements. Pourtant, tout avait bien démarré pour les Lionceaux du Sénégal qui avaient marqué à la 37e minute, mais les Coréens ont égalisé à la 72e minute. Les Lions ont encore marqué un deuxième but par Ibrahim Niang sur penalty, mais égalisation coréenne également à la fin du temps, 90e minute, 90 plus 8, puisqu'il y a eu beaucoup d'heures de jeu, puisque ce match a été marqué par la VAR aussi. Lors des prolongations, le Sénégal a été mené et ils ont également égalisé dans le temps additionnel. Il faut dire que l'avantage s'est arrêté donc pour les Lionceaux qui ne vont pas égaler le record de leur Bénin qui avait réussi à atteindre le carré d'as, comme vous l'avez dit tantôt, en 2015. Mais les jeunes Sénégalais sont tombés les armes à la main, Yacouba, comme les Maliens également qui ont fait deux buts partout contre les Italiens. Ils ont perdu à la série de tirs du 4-2.
Merci.
Ils ont joué pendant très longtemps à 10, Yacouba.
Merci bien, Amdine. La CAN commence dans 11 jours et les différentes sélections affûtent leurs armes pour sortir les listes définitives des joueurs retenus pour disputer cette compétition. Alors Stéphane, je vous retrouve depuis Abidjan. La liste définitive des éléphants de la Côte d'Ivoire est tombée très rapidement.
Oui, elle est connue depuis hier, 23 joueurs. Camara Ibrahim n'a pas eu du mal à faire son équipe parce qu'il y a eu des joueurs blessés qui ont été éliminés eux-mêmes. Sissi Abdoul Karim, Abdoulaye Bamba et Ismaël Diomandé. Alors sur cette liste, on a quand même quelques anciens champions d'Afrique. Boris Sylvain, Serge Aurier, Gradel Sérédier, Wilfried Bonny qui sont là pour conduire les jeunes prodiges. Sur les jeunes prodiges, vous avez Jean-Philippe Bamet qui joue en Allemagne, Zaha Wilfried, le virtuose ailier de Crystal Palace en Angleterre, et puis surtout Nicolas Pepe qui sera certainement le fer de lance de cette équipe ivoirienne. Et puis derrière, des joueurs locaux, ça a été la bonne note avec Camara Ibrahim. Trois joueurs locaux, l'un des portiers vice-champions de Côte d'Ivoire avec le football club de San Pedro, il s'agit de Tapeira, et puis Wanlo Koulibaly, le défenseur de la Sèque Mimosa, meilleur joueur du championnat local, et puis Cheikh Camara, vous l'en parlez tout à l'heure, des défenseurs de l'équipe du WAC. Voilà donc pour la configuration de cette équipe des éléphants. Deux matchs amicaux à jouer avant d'aller du côté de l'Égypte, le 14 face à l'Ouganda et le 16 face à la Libye.
Merci.
Et bien pour l'instant, on a un peu oublié la mise.
Merci bien Roger Stéphane. Alors Amine, très rapidement, en 30 secondes, on rappelle que la Côte d'Ivoire partage le même groupe que le Maroc et Hervé Renard donnera sa liste demain.
Liste demain qui devrait être sans surprise avec 4 joueurs écartés. Logiquement, ça devrait être 2 joueurs locaux plus 2 joueurs expatriés, 2 joueurs qui n'entrent pas dans le dispositif, peut-être Amin Harit avec des rumeurs ou encore Boutayeb du Zamalek. On en saura un peu plus demain avec 2 matchs amicaux au programme, le 12 devant la Gambie, le 16 devant la Zambie, toujours à Marrakech.
Merci bien Amin Birouk. Sporama qui s'achève ici à la présentation, Yacouba Ouédraogo, émission réalisée par Joselle Morissin. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
VOA Afrique.